Bonjour à toutes et à tous. Christophe Jubien, pour vous promener aujourd'hui dans les rues de Chartres. C'est notre dernière balade en été. Nous allons retrouver avec un grand plaisir Véronique Domagalski, guide conférencière de l'Office de tourisme de Chartres Métropole, qui nous offre gratuite une promenade dans Chartres. Chartres au fil du temps, c'est la deuxième étape de cette promenade. Nous étions arrêtés à l'ancien château de Chartres qui est aujourd'hui invisible puisqu'il a été détruit pierre par pierre pour faire place, eh bien, à la place du marché couvert, place Billard donc. Alors, nous reprenons le cours de notre promenade en compagnie de Véronique Domagalski.
Alors, on va avancer, je vais vous montrer le parloir aux bourgeois. Ce parloir aux bourgeois qui était le siège de la commune de Chartres, puisque évidemment on a eu à partir du XIVe siècle la possibilité d'avoir ici une assemblée d'échevins qui prenaient les grandes décisions pour la ville, ancêtres de notre municipalité, et donc ils se réunissaient là-bas. Alors les premiers échevins, attention, pour y être, pour siéger, hein, il fallait posséder un cheval.
Échevin.
Échevin, non, ça ne vient pas de là, mais...
Ça y est, maintenant, vous m'avez converti à l'étymologie, là.
Non, l'échevin, c'était vraiment celui qui dirigeait, c'était celui qui était à la tête de la ville. Hein, donc, on avait le premier échevin, notre maire est le premier échevin, si on se remet dans la même situation.
Eh bien, la prochaine fois que j'interviewerai, je l'appellerai monsieur l'échevin.
L'échevin. Alors regardez les têtes des personnages juste de chaque côté de la porte. Vous avez deux têtes qui représentent justement ces personnages. Évidemment, point de femme. Hein. Les femmes n'avaient pas le droit de citer.
Ça, c'est des choses qu'on remarque. Je n'avais jamais remarqué ces deux têtes, voyez. Pourtant, je passe là très souvent, mais il faut vraiment être très attentif.
Alors souvent, quand je suis avec des enfants, je leur demande est-ce que ce sont des hommes ou des femmes. Et beaucoup disent des femmes, parce que les coiffes de l'époque faisaient penser beaucoup aux coiffes des femmes. Mais non, ce sont des hommes. Il n'y avait pas de femmes qui siégeaient au conseil municipal à l'époque.
Est-ce qu'on sait à peu près dater ces deux statues?
On est au XIVe, hein. On est en plein XIVe siècle. C'est vraiment toute la période où la ville s'est émancipée par rapport au comte, par rapport à tout cela.
Une étape supplémentaire dans la démocratie, finalement,
oui,
on peut le dire.
Tout à fait. Hein. Tout à fait. Et c'était les communes. Alors, les premiers rois à avoir créé les communes, c'était Philippe Auguste, qui, grâce d'ailleurs à ses communes, a gagné Bouvines. Ça, les Français l'ignorent souvent. C'est que la bataille de Bouvines, c'est une bataille qui a été gagnée non pas grâce à la chevalerie française, mais grâce aux communes. Philippe Auguste avait fait appel à tous ses échevins, justement, de toutes les villes qu'il traversait, et il avait demandé aux gens de ramener leurs milices, de ramener leurs gardes. Évidemment, ils étaient tous très motivés pour suivre le roi, et le roi s'était fait encadrer de ces milices des villes, de ces milices des communes, et ils ont gagné Bouvines.
Ça rappelle un peu Valmy, hein, toutes les batailles, les premières batailles de la République.
Finalement, on se rend compte d'une chose, c'est que les grandes batailles sont gagnées plus par les petites gens que par les grands. On parle de victoire avec Bouvines, je vais vous parler de défaite avec Crécy, la guerre de Cent Ans. Ici, on a eu le traité de Brétigny, près de Chartres, en 1360. Mais auparavant, 1347, la terrible bataille de Crécy.
Les archers anglais, c'est ça?
Les archers anglais qui n'étaient que des petites gens, des hommes à pied. Mais ils étaient très doués avec leurs arcs, tandis que la chevalerie française était un peu lourde avec son armure et ses chevaux.
Mais enfin, on a toujours une guerre de retard, ça on le sait. Hein.
Oui. Alors ici, donc, nous avançons dans cette rue d'échange. C'est là qu'on voit qu'elle était vraiment importante. Et il faut savoir que cette rue était pavée très rapidement parce qu'on avait les remontées des gens qui venaient de la ville basse depuis la rue des Écuyers ou depuis la rue Saint-Pierre vers le château comtal. Donc forcément, besoin d'avoir pavé la rue très vite. Donc ici, une rue importante. Hein, c'était vraiment la rue de passage essentielle pour aller à la cathédrale. Comme quoi, ça n'a pas tellement changé. Il suffit de passer un samedi matin ici, on voit tout le passage qu'il peut y avoir dans cette rue. « Alors nous allons prendre maintenant la rue des Grenets. Auparavant, un petit mot sur la rue de la Porte Cendreuse.
Pourquoi la Porte Cendreuse ?
Parce que en fait, au IXe siècle, la ville haute était entourée de remparts. Donc il y avait une porte juste à mi-pente avant la rue Saint-Pierre. Et évidemment, au moment du mercredi des cendres, quand il y avait les grandes processions de carême, on remontait depuis Saint-Pierre, Saint-Père-en-Vallée, depuis l'abbaye, avec les cendres jusque la cathédrale. Et on commençait le carême. Porte cendreuse à
les
cause
cendres, du... elles étaient dans le
coffre. Oui, enfin, ouais. C'était des petits coffres. Donc là, on va arriver rue des Grenets. Rue des Grenets, c'était une famille qui était connue dès le XIIIe siècle. On a des traces. Et les Grenets, c'était des hommes de loi. C'était la noblesse de robe. Cette noblesse de robe qui travaillait justement au tribunal, pas très loin, château. Et puis qui avait donc ses logements dans cette rue des Grenets. Donc on avait des juges, des avocats, des consuls, tous ceux qui travaillaient pour la justice. Les Grenets étaient très riches. Ils avaient acheté plusieurs terres, dont un village.
Mêlé le Grenet.
Et ils ont fait restaurer, la première restauration de l'église, c'est la famille des Grenets au XVIe siècle.
Ouais, c'est là où on trouve la fameuse danse macabre.
Ouais. Donc je recommande toujours à nos visiteurs cette danse macabre qui présente cette procession du plus humble au plus riche ou inversement. Et on a les... D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit tous les ordres. D'abord, on a l'église, ensuite le laïc, puisqu'on a d'abord le pape, l'empereur, ensuite vous avez évidemment le cardinal, vous avez le comte. Vous voyez, à chaque fois, comme ça, on descend dans la hiérarchie.
Tout le monde meurt à la queue leu-leu et tout le monde meurt, qu'on soit pape ou qu'on soit...
Voilà, exactement ça, c'était pour chaque personne va au même endroit, en fait. C'est la moralité de l'histoire. Et ce qui est intéressant, c'est que ces danses macabres ont été faites au moment de la guerre de Cent Ans. Parce qu'on avait eu la peste, on avait eu la guerre, on a vu tous les fléaux. Il y a eu un grand refroidissement climatique, et on le sait par rapport au texte sur Chartres, il neigeait pendant 3 mois d'affilée. Alors cette année, on a tous dit oh, « Mon Dieu, 15 jours de neige, c'est une horreur, on n'arrive pas à s'en sortir. » Mais là, imaginez 3 mois d'affilée sous la neige. L'heure était gelée et on avait évidemment des gens qui mouraient de faim à ce moment-là. Grande pauvreté.
Il y avait j'imagine, une forme de commerce pas fluvial, mais enfin les...
Voilà, on avait un tout petit peu de commerce fluvial, très peu. Hein. Mais c'était surtout qu'on avait peu de nourriture, peu de réserves. Donc les plus pauvres mouraient rapidement. Autant au XIIIe siècle, le climat était bon, donc on a pu conserver cette répartition et le fait d'avoir quelques pauvres, mais qui vivaient correctement, qui passaient l'hiver. Mais là, à la guerre de Cent Ans, les champs sont ravagés par les guerriers qui passent. Ces soldats ont besoin de prendre des victuailles, donc ils pillent les fermes. Et quand il y a des périodes de paix, d'ailleurs, ils continuent de piller parce qu'ils sont inactifs. C'est ce qu'on a appelé les écorcheurs. Ils déferlaient sur la Beauce parce que la Beauce était riche. Et donc, forcément, à ce moment-là, dans cette grande peur, dans ce grand climat d'angoisse où la mort était omniprésente, la danse macabre est née.
Je vous appelle, vous posez la question, pourquoi les écorcheurs ?
Ben parce qu'évidemment, quand ils arrivaient, ils écorchaient. On a eu les chauffeurs, mais on a eu aussi les écorcheurs. Et d'ailleurs, les écorcheurs étaient plus terribles encore que les chauffeurs d'orgères. Parce que eux, c'était des soldats, des militaires. Et quand on leur résistait, donc ils écorchaient vifs.
Quelle époque terrible quand même.
Oui, la mort était partout. Oui. Donc nous avançons dans cette rue des Grenets, là, qui va être bientôt terminée. Vous constatez que le pavage est en train d'être refait à l'ancienne. Donc on nous refait cela. Et puis ici, on va apercevoir une maison sur le côté gauche qui a ses meneaux qui ont été sciés. C'est le lien avec la maison que je vous montrais tout à l'heure. On va avancer. Cette magnifique maison, et là vous avez le meneau qui a été scié juste là. Donc là, le propriétaire ne voulait pas payer l'impôt. Alors ici, c'est une rue qui a eu essentiellement son heure de gloire vers le 15e siècle. On était vraiment dans cette période où on avait tous les métiers de justice qui avaient pris de l'importance avec le bailliage. Et au bout, la rue des vieux rapporteurs, c'était les greffiers, les rapporteurs. D'ailleurs, encore une expression pour vous, l'affaire est dans le sac. À la fin d'un procès, on prenait toutes les liasses écrites par les rapporteurs, on les mettait dans un sac, on le fermait hermétiquement, l'affaire était terminée, l'affaire est dans le sac.
C'est extraordinaire que ces expressions aient vécu jusqu'à nous comme ça.
Et oui, tout à fait. Un petit mot, l'hôtel de la Caige, regardez ce magnifique hôtel particulier avec ce mélange de briques et de pierres. Alors ici, on est dans la limite entre la brique, justement. On a beaucoup de tuileries dans la région et la pierre blanche, la pierre évidemment qui nous vient de la Loire.
C'est quelle époque, c'est à peu près ça?
Là, on est pour le bas, partie 15e, 16e. On est vraiment à l'extrême fin du Moyen-Âge, début de la Renaissance. Et nous arrivons donc sur la place Saint-Aignan, où on va rentrer dans l'église, qui est toujours une merveilleuse surprise pour ceux qui ne la connaissent pas.
C'est mon église préférée.
Et la mienne aussi. La mienne aussi. Donc je ne vous dirai pas tout, hein, parce que là, j'invite tout le monde à venir la visiter. Mais ici, déjà, quand on arrive sur cette place qui est refaite, bientôt nous aurons les arbres. Et ici, on a ces deux portails. Portail de droite, très simple, gothique. Portail de gauche où nous allons rentrer, 16e Renaissance.
Donc elle a commencé à être construite à l'époque du gothique.
Elle a été même commencée avant, mais on a plusieurs parties, d'ailleurs certainement des traces dans la crypte, mais ici on a une grosse partie gothique, mais surtout Renaissance. Alors ce qui est intéressant à Chartres, c'est qu'on peut faire l'histoire du vitrail entre le 12e siècle, 13e siècle cathédrale, jusqu'au 20e, 21e siècle, et on a dans toutes nos églises des petites traces, donc c'est intéressant, on avance avec le temps. Et ici, vous avez beaucoup de vitraux du 16e et du 19e siècle.
Quel charme cette église, quel charme.
Quel charme et surtout quelle quiétude avec cette charpente de bois massif. Alors c'est quel bois, mon cher Christophe?
Du bois qu'on utilisait pour faire des bateaux. Des bois de charpente de marine.
C'est du châtaignier. Du châtaignier parce qu'il fait fuir les insectes. Et effectivement, c'était les charpentiers de marine qui venaient faire ces charpentes de bois. Nous ne sommes pas loin de la Normandie. Les meilleurs charpentiers de marine étaient en Normandie. Et c'est pour cela qu'elle a la forme d'une carène de bateau renversée, cette voûte.
Et puis, il faut vraiment que les gens viennent voir ça.
Ah oui, elle est peinte. Et puis, les petites anecdotes, c'est que les lambris, en fait, on a beaucoup de voûtes à lambris en Eure-et-Loire, mais ici les lambris, à l'origine, c'était ce qu'on appelait des mérins. Vous connaissez la rue du Bois-Mérin ? Et le mérin, c'est une planchette de châtaignier sur laquelle vous avez mis de la poix, de la graisse animale, et puis dessus, on met du crin de cheval pour l'isoler de l'humidité. Ça rend votre charpente complètement étanche. Ça, c'est vraiment de la technique de charpentier de marine. Et là, ce qui surprend toujours les visiteurs, ce sont ces peintures. On a de la peinture partout dans l'église. Alors, bien sûr, pour les puristes, pour les historiens, ça n'est pas de la peinture médiévale. Ici, on est en plein 19e siècle. Nous sommes à la fin du 19e siècle. Viollet-le-Duc a commencé à vouloir restaurer les monuments, etc. Il a fait Carcassonne, il a fait Pierrefonds, et à Pierrefonds, il a fait la connaissance d'un artiste qui travaillait avec des techniques anciennes, mais qui était surtout intéressé par la peinture. Cet artiste, c'est Monsieur Boeswillwald. Boeswillwald, c'est celui qui a refait la Sainte-Chapelle, qui a repeint la Sainte-Chapelle. Et Boeswillwald a intéressé beaucoup Viollet-le-Duc par ses travaux à Pierrefonds. Et ensuite, lorsqu'à Chartres, on a voulu restaurer cette église, à la fin du 19e siècle, c'est Boeswillwald qui est venu.
Eh bien, moi, je dis bravo à Monsieur Boeswillwald parce que c'est une splendeur.
C'est une splendeur, même s'il a interprété, même s'il a fait différent, parce que regardez ce verre en dessous du triforium, c'est un verre très Napoléon, hein. On n'est pas du tout dans le verre médiéval. Néanmoins, on a le côté visuelle, la couleur omniprésente que pouvaient avoir les gens du Moyen-Âge. Les chevrons, effectivement, c'est totalement byzantin. Il a oublié que à l'époque où cette voûte et cette église ont été construites, il n'y avait pas les chevrons en motif décoratif. Tant pis, on lui pardonne. Il a tenté de restituer l'esprit des églises d'autrefois, et rien que pour ça, merci à lui. Ce qui est dommage, c'est qu'on voit que la peinture s'écaille un peu, mais parce que Buswildwald était quand même un puriste, c'est qu'il utilisait les techniques à l'ancienne, et le liant, c'était du blanc d'œuf, c'était pas de la peinture avec du plomb.
Mais on a vraiment le sentiment d'être en face d'une œuvre singulière, je veux dire.
C'est totalement singulier, c'est dans l'esprit de Chartres. Je dis toujours, quand on parle de Chartres, on parle du vitrail. Et moi, je dis, on devrait parler de la couleur. Parce que la couleur, avec les vitraux, avec Chartres en lumière, avec les fresques, nous avons un art de la fresque qui est très présent à Chartres, avec les fresques de Bel Air, avec la fresque qui vient d'être faite au niveau du cinéma, que je trouve absolument magnifique. Et ici, cette église, ben, la couleur est partout. Et c'est vrai que la mosaïque rajoute aussi encore de la couleur. Et après, je vais vous montrer du street art, vous allez voir. Mais auparavant, faisons le tour. Je vais vous parler de quelques petites choses par rapport aux vitraux. Quand on a nettoyé l'église au XIXe siècle, eh bien, les vitraux, beaucoup étaient dans la crypte, même le sol, abîmés. Et c'est Nicolas Lorrain, qui est un des premiers grands maîtres verriers chartrains, qui les a restaurés. Alors regardez, par exemple, celui-ci de vitrail, il a complètement juxtaposé des morceaux de vitraux qui restaient. Il en a retrouvé certains intacts qu'il a restaurés, nettoyés. Mais dans le déambulatoire, vous voyez des créations de Nicolas Lorrain. Et dans son esprit de couleur, justement, il a choisi de mettre les couleurs les plus sombres et les plus vives côté sud et les couleurs pastels côté nord pour équilibrer la lumière dans l'édifice.
Ça, c'était bien vu. J'ajoute que c'était un maître verrier, je pense, très connu, puisque j'ai pu admirer, mais par hasard, j'ai découvert dans l'église de Dinan, en Bretagne, des œuvres de Lorrain, des vitraux de Lorrain.
Les vitraux de Lorrain. Il faut savoir que l'art du vitrail, Lorrain, c'était vraiment le premier grand maître verrier de Chartres qui a remis au goût du jour l'art du vitrail. Et à sa suite, d'ailleurs, beaucoup de maîtres verriers sont venus s'installer. On a eu ensuite, évidemment, la dynastie Lorrain, mais pensons à Gabriel Loire qui a commencé à travailler à l'atelier Lorrain et qui a fondé son propre atelier. Et maintenant, c'est toute la suite, les générations se succèdent à l'atelier Loire dans le même esprit. Donc c'est l'esprit d'autrefois, l'esprit des maîtres verriers et l'esprit de la lumière qui est connu maintenant dans le monde entier. Chartres est célèbre pour ça.
Alors il nous reste, chère Véronique, allez, à peine 10 minutes, on va dire 10 minutes,
oui,
évidemment.
Tout de suite vers la place de l'Étape au Vin. Et là, place de l'Étape au Vin, je vous parlerai du Tertre Saint-François, mais surtout du street art.
On va faire un bond dans le temps absolument extraordinaire. Venez goûter les couleurs et les ombres de l'église Saint-Aignan. C'est une église à découvrir, à redécouvrir sans cesse.
Lorsqu'on fait ces visites, j'y passe en général un bon quart d'heure et les gens sont là, regardent tout. On a beaucoup de questions par rapport aux vitraux, par rapport aux techniques. Je leur montre le vitrail de Saint-Michel. Saint-Michel qui est magnifique avec cette armure jaune étincelante. Et c'est là qu'on s'aperçoit que le jaune est vraiment une couleur qui était très utilisée au XVIe siècle. Le jaune et la grisaille, c'est plus caractéristique de cette période-là. Alors là, nous allons arriver donc place de l'Étape au Vin. D'ailleurs, Étape au Vin, c'est un lien par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, par rapport aux vignes. Donc, on avait ici les marchands de vin qui venaient. Donc, pour les marchés, en fait, c'était exactement comme pour tous les métiers. On avait une place, une rue qui a été réservée à un marché spécifique. Place des Halles, c'était pour le grain. Ici, le vin. Donc vous voyez, on changeait comme ça en fonction des métiers.
Ces marchands de vin, donc on venait acheter du vin en gros ou est-ce qu'on pouvait boire un coup comme dans une...
Il y avait quelques tavernes aux alentours, mais c'était surtout on venait acheter son tonneau. Alors il y a une petite légende qui dit d'ailleurs que les vignerons bosserons étaient quand même assez pauvres, tellement pauvres que eux buvaient de l'eau. Alors certains diront, les mauvaises langues diront que c'était aussi pour leur santé qu'ils ne buvaient que de l'eau. Hein.
Les clients devenaient aveugles comme dans les tontons flingueurs, alors c'est ça.
Oui, c'est ça, exactement. Alors ici, cette maison qui est assez curieuse, hein, tout en hauteur, cette maison à pan de bois a été la maison d'un sergent de ville. Regardez, on vient de passer la rue de la Justice et là on a le sergent de ville. Hein, et c'était donc Monsieur Bouvard, Jean Bouvard, qui était un sergent de ville, mais tellement méticuleux qu'il tenait un journal quotidien qui nous est resté. Et c'est une source, c'est une vraie mine d'or sur la vie à Chartres au moment où il était là. Donc on est en pleine Renaissance.
En pleine Renaissance. Ah oui, c'est assez ancien. Le sergent de ville, il servait à quoi en fait ? C'est un policier ?
C'était le commissaire de police, hein, le sergent de ville. On est quand même dans des métiers un peu plus importants que le simple petit, on va dire, gendarme qui était là juste pour faire, pour maintenir la loi.
Ouais, parce qu'on voit la maison est impressionnante. Hein.
Alors, nous voici donc ici, place de l'Étape aux Vins, avec nos œuvres de street art. Parlons de certainement le plus célèbre au monde, Jérôme Ménager, qui est un artiste de street art qui est reconnu à Paris et dans le monde entier. Jérôme Ménager avait fait l'école boule et avec cette technique de l'école boule, en fait, vous savez, il y a toujours ces petits bonhommes de bois, ces petits squelettes de bois articulés, et lui, il l'a repris en blanc, en pochoir, et il a toujours une vision très poétique. Donc il utilise en fait le mobilier urbain pour asseoir son petit homme blanc, hein, avec des messages toujours derrière.
C'est très chouette. Hein, c'est
bon. Si vous allez d'ailleurs dans la rue Noël Ballet, vous avez un homme blanc qui envoie comme ça, comme des baisers, hein, au ciel. Et notre homme blanc tient presque au-dessus une autre œuvre de street art, des mosaïques. On en voit plusieurs en ville basse. D'ailleurs, on les montre dans ce parcours au fil du temps. Des petites mosaïques bleues avec ce qu'on appelle des invaders. L'invader, c'est un artiste de street art qui est allé dans le monde entier. Il a d'ailleurs sur internet une carte où il met des petits points à chaque fois qu'il est passé quelque part. Et quand il passe dans une ville, il laisse en général une dizaine de petites mosaïques de faïence, hein, qui reprennent les pixels, vous savez, des jeux vidéo. Et il met, alors ici à Chartres, il les a mis en bleu parce que c'est notre couleur. Mais si vous allez à Clermont-Ferrand, c'est en noir et blanc, puisqu'on a la pierre blanche et la pierre noire. Et puis vous pouvez aller dans d'autres villes, on a nos œuvres de street art qui rappellent toujours le pays ou la ville où il est. Alors, on a un autre artiste de street art qui travaille d'ailleurs avec un maître verrier. Il travaille avec Kevin Picole. Ils sont dans une mouvance artistique qui est très intéressante. Et c'est EZK qui a fait ici ce petit garçon, hein, justement sur le mobilier urbain. Et le Roundup que vous voyez là, avec l'avion, hein, qui est en train de pulvériser. EZK, c'est un garçon qui est très marqué par tout ce qui est, on va dire, l'extrême pauvreté et le contraste entre la pauvreté et la grande richesse. Et évidemment, il a créé beaucoup de messages chocs. Si vous allez au niveau de l'Esperluette, notre librairie chartraine, incontournable, magnifique logis Claude Huvet, la maison du médecin Huvet, et en bas de l'Esperluette, vous avez une œuvre de EZK. Et cette œuvre, c'est Dans quel monde vit-on, où on voit un petit garçon comme cela, qui est dans l'extrême pauvreté, extrême dénuement, qui tient un sceau, sa seule richesse, son sceau. Et le sceau est logoté Louis Vuitton. Donc vous voyez, les messages, c'est toujours des messages assez chocs, hein, pour inciter à la réflexion. Et EZK, on lui doit également une autre œuvre de street art que l'on montre quand on termine notre parcours, rue de la Corroirie, c'est Notre-Dame du Wi-Fi. C'est quelqu'un qui est très pieux, très religieux, mais dans le monde où on vit, ben le Wi-Fi c'est incontournable. Donc voilà, c'est un petit peu ces messages qui incitent à la réflexion. C'est ça le street art aussi à Chartres. Et d'ailleurs, quand on est ici, j'en profite toujours pour évoquer, au mois de mars, nous avons notre boulevard du Graphe avec les artistes de street art qui viennent. Donc on a beaucoup d'artistes qui viennent régulièrement à Chartres.
Mérodique, un grand merci à vous. Merci de cette balade magnifique.
Je ne vous ai pas parlé de la descente et puis de l'église Saint-Pierre où nous allons également. Dans cette église Saint-Pierre, je montre toujours le vitrail de Saint-Louis qui est juste au niveau du cœur. C'est un vitrail qui a été posé en 1300. Et pourquoi il est important? Parce que c'est le premier vitrail où on dit Saint-Louis et non Louis IX. Mmh. Il a été canonisé en 1297 et dans cette église Saint-Pierre, on a un des premiers vitraux quand il a été canonisé.
Un monument historique dans le monument historique.
Exactement, exactement. Une petite pièce intéressante.
Merci beaucoup Véronique. On va donc cette promenade, c'est Chartres à travers les âges, ça dure donc 2 heures. Comment on fait si on a envie de la...
Chartres au fil du temps.
Chartres au fil du temps.
C'est le dimanche à 11h. Donc c'est une petite promenade apéritive qui nous emmène donc de 11h à 13h à travers l'histoire de Chartres et on redécouvre donc la ville sous toutes ses facettes.
Il faut s'inscrire absolument.
À l'office de tourisme. Oui, vaut mieux réserver avant parce que c'est vrai que ce sont des visites qui ont beaucoup de succès parce que justement la découverte des autres églises de Chartres d'une autre facette, ça attire. Ça attire le monde.
Un grand merci à vous, un grand bravo.
Merci beaucoup Christophe. Puis à l'année prochaine pour une prochaine visite. On fera un autre quartier.
Quel bonheur de travailler avec Véronique Domagalski, guide conférencière de l'Office de tourisme de Chartres Métropole. On attend avec impatience l'année prochaine pour continuer cette balade dans une ville aussi belle, aussi passionnante que l'est Chartres. Excellente fin de journée à toutes et à tous. Bonne rentrée si vous faites votre rentrée. Ben, je vous retrouve moi la semaine prochaine, notamment pour les infos départementales. À bientôt.
Elle n'avait pas de parents, puisque elle était orpheline. Comme elle n'avait pas d'argent, ce n'était pas une richissime. Elle eut cependant des parents, mais ils ne l'avaient pas reconnue. Si bien que la pauvre enfant, on la surnomma l'inconnue. Elle vendait des cartes postales, puis aussi des crayons. Car sa destinée fatale, c'était de vendre des crayons. Elle disait aux gens de la rue, voulez-vous des crayons? Mais reconnaissant l'inconnu, il disait toujours non. C'est qu'est triste. C'est triste ça, quand même de ne pas reconnaître son enfant. Il faut pas être physionomiste. Il me semble que si j'avais un enfant, moi je le reconnaîtrais. À condition qu'il me ressemble, naturellement. C'était une Ménilmontant qu'elle étalait son petit panier pour attirer les clients. Elle remuait un peu son panier. Mais un jour, un vagabond qui passait auprès de son panier lui a pris tous ses crayons. Alors elle s'est mise à crier, voulez-vous des cartes postales? Je n'ai plus de crayons. Mais les gens, chose banale, ne voulaient plus que des crayons. Quand elle disait dans la rue qu'elle avait des crayons, ils disaient à l'inconnu, tes crayons sont pas bons. C'est ce qui est triste. C'est triste quand même. Elle avait plus de crayons. Forcément, elle se baladait avec son panier à découvert, n'est-ce pas? Alors, le vagabond, lui, bon, allez, hop, il a pris tous ses crayons. Comme ça, elle n'en avait plus. C'est vrai qu'elle n'en avait pas besoin, puisqu'elle n'en vendait jamais, mais quand même. Un marchand de crayons en gros lui dit, viens chez moi, mon enfant, je t'en ferai voir des beaux, je ne te demanderai pas d'argent. Ce fut un drôle de marché, car c'était un drôle de marchand. Et elle l'a senti passer, car elle en a eu un enfant. C'est triste quand même d'abuser d'une inconnue comme ça. C'est vrai qu'elle a été faible aussi, c'est pas parce qu'il disait qu'il était marchand de crayons en gros que... Enfin, elle avait un enfant, voilà. Elle avait bonne mine. Si seulement elle avait une mine de crayons. Mais non, mais c'est ça qui la minait. Alors, quand elle a vu ça, ben, elle a abandonné son enfant. Puis qu'est-ce qu'elle a fait plus tard, cet enfant? Ben, elle vendait des cartes postales, puis aussi des crayons. Car sa destinée fatale, c'était de vendre des crayons. Elle disait aux gens de la rue,